D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. C'est un théâtre qui a été construit dans un quartier sans théâtre et qui, malgré ce théâtre, est resté un quartier non théâtral et malgré cela, le théâtre a eu du succès. Au tout début du XXe siècle, un entrepreneur de spectacle, Gabriel Astruc, décide d'investir dans la construction d'une salle. Le quartier à la mode à ce moment-là se situe sur les boulevards et aussi bien le plus grand des théâtres musicaux, l'Opéra de Paris, y avait été inauguré 25 ans auparavant, en 1875. 25 ans, c'est une génération. Une génération, c'est un dégoût, un rejet, une rénovation. On a de la tendresse pour le style de nos grands-parents, mais le style de nos parents nous paraît risible et d'une certaine façon plus vieux. L'Opéra de Paris et les théâtres, c'était les boulevards. On construira près de la Seine, non loin du pont de l'Alma. L'Opéra de Paris, c'était Garnier et son style éclectique, mêlant l'Empire, le médiéval et le Renaissance. On construira une épure, blanche, en béton et en marbre. La musique adorée, c'était Tchaïkovski et les danseuses en tutu pour vieux messieurs lubriques fumant le cigare au foyer. On promouvera Stravinsky et les danseuses en tunique, cachant cuisses et aplatissant seins. Le théâtre des Champs-Élysées, au 15 de l'avenue Montaigne, dans le si bourgeois 8e arrondissement de Paris, a été un théâtre de révolution. On ne l'a pas vu parce qu'il ne l'a pas proclamé. Il l'a même bien caché, ouvrant en 1913 par un concert de musique française comprenant une des gloires musicales bourgeoises de la France, si on me permet de le dire, la mère de Debussy. Enfin, il y avait aussi au programme Emmanuel Chabrier, toujours vaguement dédaigné parce qu'il est un musicien du mode mineur et que les foules ne s'impressionnent qu'au moyen du majeur et du grandiloquent. Enfin, un mois plus tard, c'était le Sacre du Printemps, créé par les ballets russes de Diaghilev avec Nijinsky à la chorégraphie et Pierre Monteux à l'orchestre. Et il y a eu scandale. Voici ce qu'en dit Jean Cocteau dans une émission de télévision de 1965. Le scandale est venu de ce que les habitués du ballet russe n'y comprenaient rien et que derrière les loges de Corbeil, il y avait tous les jeunes de Montparnasse qui en sont presque venus aux mains avec les belles dames qui occupaient les loges. Je vois toujours la vieille comtesse de Pourtalès debout dans sa loge de Corbeil, agitant son éventail en plumes d'autruche et criant « Depuis 60 ans, c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi ». 102 ans plus tard, après une histoire mouvementée, ce théâtre est toujours là. Comment a-t-il contribué à l'histoire esthétique de Paris? Comment compte-t-il continuer à y contribuer? Quel est le secret professionnel du Théâtre des Champs-Élysées alors qu'il s'apprête à donner la 8e symphonie de Bruckner par l'orchestre de Rotterdam? Je reçois pour en parler son directeur général, Michel Franck. Michel Franck, je voudrais que vous me racontiez d'abord comment physiquement votre théâtre a modifié Paris. Quelle est son originalité architecturale?
Alors déjà, vous avez mentionné qu'il était situé 15 avenue Montaigne. Il n'aurait pas dû se situer là, puisque le projet initial de Gabriel Astruc, qui était un impresario, et qui voulait construire un palais philharmonique où se mélangeraient tous les genres de musique, ce qui n'existait pas auparavant, à savoir l'opéra, mais aussi le récital ou un lieu pour des orchestres symphoniques. Et donc, il a recherché des emplacements sur Paris et son premier lieu de prédilection était au rond-point des Champs-Élysées, dans les jardins. Et il avait même proposé un premier projet, puis un second, le premier ayant été jugé trop classique. Et il y a eu une manifestation, on va dire, d'écologistes à l'époque, qui ont dit que c'était impensable, dans ces jardins, au rond-point des Champs-Élysées, d'édifier un théâtre. Et il s'est donc enquis d'un nouveau lieu, et l'avenue Montaigne, qui n'était pas ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, qui était effectivement, vous l'avez souligné, très excentrée de Paris, lui a proposé un emplacement qui était disponible, où il a décidé de construire son théâtre. C'est donc comme ça que le nom est resté le Théâtre des Champs-Élysées, tout simplement parce qu'il devait se situer sur les Champs-Élysées au départ. Il a donc, pour ce deuxième projet, fait appel à un premier architecte, Henri Van de Velde, qui était très connu à l'époque, mais qui était plus connu pour donner de belles formes plutôt que pour ses qualités, on va dire, techniques. Et il est un peu passé à la trappe, si j'ose dire. On se souvient plus beaucoup de lui, puisque Gabriel Astruc a fait ensuite appel aux frères Perret, qui sont restés dans l'histoire comme étant les architectes du théâtre des Champs-Élysées, qui finalement ont gardé beaucoup du projet de Van de Velde. Et quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de Van de Velde, on y reconnaît beaucoup de ces courbes qui lui sont si caractéristiques. Mais ce sont les frères Perret qui ont permis que ces beaux dessins puissent tenir debout et être un lieu voilà, qui ne s'écroule pas au bout de quelques jours. Et ce bâtiment est resté très connu de tous les architectes et dans l'histoire de l'architecture parce que c'est le premier bâtiment construit en béton. Et le théâtre a la particularité par rapport au Châtelet, même par rapport à l'Opéra Garnier, et grâce au béton armé, de n'avoir aucun poteau et de tenir juste par la magie du béton.
Il faut peut-être décrire, pour tous les gens qui ne connaissent pas votre théâtre, décrire un peu, dites-nous un peu à quoi il ressemble.
La façade est en marbre. Une des volontés aussi de Gabriel Astruc, c'était de réunir plusieurs artistes pour la construction de ce théâtre. Donc il y a Antoine Bourdelle qui a fait des fresques qui sont à l'extérieur, qui a aussi fait des fresques murales qui sont tout autour de l'atrium, dans le grand hall où le public pénètre avant de rentrer dans la salle. Il y a René Lalique qui a fait les luminaires, il y a Maurice Denis qui a fait le plafond. Donc il y a eu énormément d'artistes qui ont participé au Théâtre des Champs-Élysées. Donc la façade est en marbre, ce qui est déjà, en tout cas en 1913, un marbre blanc, blanc-gris, très original. On rentre dans un vaste hall rectangulaire avec des lignes qui sont très très architecturées, deux grands escaliers avec des rambardes un petit peu dorées. Et puis ensuite, on pénètre dans une salle qui a la particularité de n'avoir aucune ligne droite. Même les allées qui séparent l'orchestre en trois parties sont des allées qui sont très légèrement courbes. Voilà, c'est une espèce de rotondité parfaite que les artistes apprécient beaucoup parce que c'est une salle qui comporte quasiment 2000 places, 1985 places, très exactement, donc plus grande que le Palais Garnier, et qui, quand on est sur la scène même du théâtre, semble extrêmement petite et intime. On est vraiment enveloppé comme si on était dans un cocon, et c'est une de ses caractéristiques principales.
Il y a plusieurs salles, n'est-ce pas ?
Alors voilà, le projet de Gabriel Astruc était un projet, extrêmement ambitieux. Il y a la grande salle donc, qui s'appelle le Théâtre des Champs-Élysées, qui ne fait pas de théâtre comme son nom ne l'indique pas. Il y a au-dessus du hall la Comédie des Champs-Élysées, qui est un lieu où se donnent des pièces de théâtre. Et puis en 1923, c'est Jacques Héberteau qui était à l'époque le directeur du théâtre, qui était d'ailleurs le seul directeur des deux entités, après il y a toujours eu des directions différentes, qui a fait construire le studio des Champs-Élysées, qui est une petite salle de 150 places, et qui au départ était, dans la volonté de Gabriel Astruc, était un lieu d'exposition, qui est devenue ensuite une petite salle qui dépend, elle, de la Comédie des Champs-Élysées, et qui est une salle avec un théâtre, on va dire, un peu plus expérimental.
C'est un bâtiment qui a dû coûter une fortune, non ? Je ne vous demande pas le
qui a,
quand même
qui a
tous ces artistes.
C'était très cher, mais Gabriel Astruc s'était entouré d'un financier, M. Bouvard, qui lui a permis de lever des fonds. Il y avait des mécènes à l'époque.
Il y avait des mécènes.
Beaucoup plus qu'en France.
Beaucoup plus que maintenant ?
Beaucoup plus qu'en France actuellement, oui. À l'inverse de ce qui se passe dans la culture anglo-saxonne, le mécénat culturel est beaucoup moins répandu en France qu'il ne l'est dans d'autres pays. Donc les mécènes sont moins nombreux en France.
D'ailleurs, c'est probablement une des dernières très grandes entreprises privées de construction de salles à Paris, non ? Votre théâtre.
Oui, c'est celui de la Caisse des dépôts
que vous dirigez.
Qui en est propriétaire. Oui, c'est une des seules même constructions de théâtre privé de cette importance, en tout cas.
Alors, vous venez de le dire, le théâtre a été racheté quand d'ailleurs par la Caisse des dépôts ?
En 1970.
Alors la Caisse des dépôts, je suis allé chercher ça, c'est une chose excessivement sérieuse qui gère l'argent des collectivités publiques, enfin les fonds des notaires, les fonds des caisses d'épargne, etc. Donc c'est quelque chose d'excessivement riche et d'excessivement puissant aussi, puisque l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, Jouyet, dirigeait la Caisse des dépôts. Est-ce que ça fait partie des missions réelles de la Caisse des dépôts d'acheter un théâtre, ou est-ce qu'on a fait ça pour le sauver, parce qu'on a donné un coup de pouce à...
Voilà, la Caisse des dépôts, historiquement, ne devait porter le théâtre que pendant quelques mois ou quelques années. Finalement, elle en est restée propriétaire, mais la Caisse des dépôts a une division mécénat qui est relativement importante, qui est maintenant centrée autour des jeunes talents, autour de l'architecture, autour de la danse. Donc, il y a une division mécénat à la Caisse des dépôts, dont le Théâtre des Champs-Élysées fait partie.
D'ailleurs, un théâtre n'étant pas un théâtre s'il n'a pas ses scandales, j'ai parlé du scandale de Nijinsky, du massacre du printemps tout à l'heure, il y a eu dans les années 80 un petit simili-scandale quand on a construit au-dessus de votre théâtre un restaurant qui s'appelle la Maison Blanche et dont l'autorisation de construire a été donnée à un jour des élections législatives contre l'avis, je crois, de la Commission des Monuments Historiques. Voilà, ça a fait un peu de tapage.
C'était pas un scandale artistique. Il y a eu deux grands scandales pour moi au Théâtre des Champs-Élysées. Vous l'avez mentionné, évidemment, le 29 mai 1913, le Sacre du Printemps. Et je pense que tous les artistes qui mettent les pieds pour la première fois sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées disent c'est là qu'a été créé le Sacre du Printemps. Je pense que ce qui a choqué les gens, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est évidemment la chorégraphie de Nijinsky qui ne ressemblait pas à ce qu'on pouvait voir à l'Opéra Garnier, mais tout autant la musique de Stravinsky. D'ailleurs, ils sont co-dépositaires de l'heure à la SACEM. Le deuxième grand scandale, c'est en 1954, c'est Désert de Varèse, où il y a eu à peu près le même tohu-bohu que pour le Sacre du Printemps.
Qu'est-ce qui s'est passé, pour rester encore un petit peu dans l'histoire de votre théâtre, pendant les deux guerres mondiales? C'est toujours des questions importantes. Je crois qu'il a fermé pendant la Première Guerre mondiale.
Dans la Première Guerre mondiale, il a fermé pour une raison assez simple. Il a ouvert en 1913, ce qui n'était pas forcément la meilleure année pour ouvrir un lieu de cette importance. Et la première saison de Gabriel Astruc était tellement ambitieuse qu'il a fait faillite. Donc le théâtre a fermé, il a été ouvert pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de concerts symphoniques, dont je crois d'ailleurs des concerts avec l'Orchestre National de France, et puis il a été réquisitionné aussi pour un certain nombre de concerts.
De Radio Paris, je crois, Radio Paris est allemand. Et je crois que le théâtre a rouvert en 1920, c'est-à-dire près d'un an et demi après la guerre, avec le bœuf sur le toit, sur un argument de Cocteau et une musique de Milhaud.
Il y a eu le bœuf sur le doigt, et puis les fameux ballets suédois qui ne se produisaient qu'à Paris, comme leur nom ne l'indique pas là non plus. Il a rouvert en 1920, effectivement. Et ensuite, il a été, à partir de 1922, la propriété d'une dame qui a reçu ça en cadeau de mariage de son mari, qui était très gentil.
Ah bon?
Madame Ganavalska, qui est restée propriétaire quasiment jusque dans les années 70.
Et elle avait un goût, cette dame, ou c'était comme une personne...
C'était un peu une danseuse,
pour elle. Oui, c'est ça. Alors, il y a une chose qu'il nous faut dire, c'est que c'est... Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que ça s'appelle théâtre, mais il n'y a pas de théâtre. Et donc, c'est principalement un lieu de musique. Pour rester encore quelques instants dans le passé, quels sont les grands compositeurs qui ont été créés au Théâtre des Champs-Élysées?
Alors, dans la saison d'ouverture, il y a eu Pénélope de Fauré, qui est quand même un opéra très important dans la musique française. Il y a eu Debussy, il y a eu Chabrier, vous l'avez cité, il y a eu beaucoup de Messiaen, il y a eu beaucoup de Britten, il y a eu du Sapin plus récemment. Donc voilà, ça a toujours été un lieu de création, de tradition aussi, mais de création. Et énormément d'artistes ont fait leur début sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Et j'essaye de continuer justement avec cette tradition de Gabriel Astruc, c'est-à-dire de mélanger effectivement des grands classiques ou des artistes très très connus et de jeunes artistes. C'est une des missions que je m'impose et qui me paraît essentielle.
Mais il y a eu aussi quand même pendant l'entre-deux-guerres et un peu après la guerre, on voit passer chez vous des noms comme Jouvet, Pitoëf, donc tout ça c'est des noms de théâtre, donc ça veut dire que du théâtre il y a eu...
À la comédie.
Oui,
Jouvet a été à la comédie.
Il y a eu des créations. Knock a été créé.
Knock a été créé là. Il y a eu le fameux Art de Yasmina Reza, bien plus tardivement, qui a été créé là. Mais ça, effectivement, en théâtre, Jouvet a été fondateur sur la comédie des Champs-Élysées.
Nous allons maintenant entendre Jacques Héberto, qui a dirigé le Théâtre des Champs-Élysées dans les années 20. Il parle de sa conception de ce théâtre comme lieu d'œuvres lyriques et de ballet. Ensuite, le chef d'orchestre Désiré-Émile Engelbrecht évoque le concert inaugural de 1913. Cet extrait des Souvenirs sur le Théâtre des Champs-Élysées, diffusé sur la chaîne nationale, qui était l'ancêtre de France Culture, le 1er janvier 1954.
Donc, nous débutâmes avec les ballets suédois, et ensuite, je me trouvais assez jeune, avec un bail de théâtre, de deux théâtres plus exactement, et sans programme bien défini. C'est pourquoi, pour la première année, je sous-louais la comédie à Jémy et à Batty, qui firent le beau travail que vous savez, mais ce travail ne fut pas récompensé par un succès financier, et ils durent abandonner au bout d'un an. En ce qui concerne le Grand Théâtre, mon idée était d'en faire un grand centre de théâtre étranger, centre que Paris n'avait pas jusque-là et qui était, à mon avis, essentiel, ne serait-ce que pour rendre les politesses à tous les pays étrangers qui accordaient tant de compréhension et tant de bienveillance à tous les efforts dramatiques français. C'est ainsi que nous eûmes l'occasion admirable de pouvoir présenté pour la première fois à Paris, le théâtre de Stanislavski, le théâtre de Taïrov, l'opéra de Vienne, l'opéra de Turin et beaucoup d'autres compagnies de ballet, depuis les ballets russes jusqu'au ballet Shkapavlova, enfin, n'est-ce pas, et toutes les grandes manifestations qui eurent lieu dans le grand théâtre des Champs-Élysées, et même aussi, il faut le rappeler, le premier bal des Petits Lits Blancs eut lieu au théâtre des Champs-Élysées.
Mon cher maître, vous avez gardé le souvenir, je suis sûr, très vivace de ce concert. 40 ans après, qu'en pensez-vous et qu'évoque-t-il pour vous?
J'ai toujours la même impression. Je me souviens que dans ce beau théâtre, le premier morceau, les premières notes de musique qui ont été données étaient celles de l'Ode à la musique de Chabrier. D'ailleurs, chaque fois que je suis retourné dans ce théâtre, et ça m'est arrivé combien de fois, chaque fois nous avons rejoué ce morceau pour recommencer. Au concert inaugural, on avait réuni là, Astruc avait réuni là tous les musiciens illustres vivants, et je vous assure que ça n'avait pas été très facile de les faire vivre ensemble, car il y en a quelques-uns qui se détestaient cordialement, notamment Saint-Saëns et Debussy. À moi avait été échu de diriger les œuvres des morts, c'est-à-dire l'Ode à la musique, comme nous en avons parlé tout à l'heure, et le Scherzo de Lalo. Ce fut vraiment une très belle soirée, cette soirée, parce qu'il inaugurait une véritable maison de la musique, ainsi que lui-même, Debussy, l'avait nommé.
Michel Franck, vous avez pris la direction du théâtre, je crois, en 2008.
J'étais nommé en 2008 pour une première saison qui commençait en septembre 2010. Il faut au moins 2 ans, voire 3 ans, pour préparer avec sérénité une saison lyrique, notamment.
Vous succédiez à
Dominique Meyer.
Qui est parti pour
l'Opéra de Vienne, Staatsoper Wien.
Et donc, dans ces cas-là, quand on succède à quelqu'un, on purge, si je puis dire, une programmation qui dure sur un an ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire la programmation est faite très longtemps à l'avance.
Dominique Meyer avait programmé jusqu'à la fin de la saison 2009-2010, mais il est resté directeur général, c'est-à-dire qu'il était présent. Il arrive parfois que pendant les périodes de transition, si quelqu'un est nommé à un autre poste, il parte un peu plus tôt, et que c'est le nouveau directeur qui assume la programmation de son prédécesseur. Là, ça n'a pas été le cas. Dominique est resté jusqu'au 30 juin 2010. Il a assumé l'intégralité de sa programmation avec un planning assez compliqué, parce qu'en même temps, il faisait celle de l'Opéra de Vienne, donc il passait son temps dans les avions. Ces 2 années ont permis sereinement, comme je le disais, de faire la programmation et puis aussi de s'imprégner de l'intérieur, de ce qui fait l'essence des personnalités du théâtre et de ressentir la façon dont on peut avoir envie de le manager.
C'est un mandat de combien d'années que vous avez? Il n'y a pas de mandat?
Si, c'était un premier mandat de 5 ans, donc sur les saisons 2010-2015, et le conseil d'administration m'a renouvelé mon mandat jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, pour le moment.
Et là, vous avez fait votre programmation jusqu'en?
Alors, la programmation, elle se fait en plusieurs temps. La programmation lyrique se fait très longtemps à l'avance. Je suis en train de finir 18-19 et 19-20, en tout cas dans ces grandes lignes. 16-17 va être annoncé au public en avril. 17-18 est terminé pour moi sur l'opéra. Et 18-19, 19-20, déjà très très avancé. Les concerts se décident un petit peu plus tard. Je dois avoir à peu près 50% de la programmation de concerts faite sur 17-18.
Quel genre de clientèle vient chez vous, si vous le savez, si vous avez fait une étude, quelle tranche d'âge, quel type de public?
Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on a parfois l'image d'un théâtre cher, ce qui n'est pas le cas, parce que on est beaucoup moins cher que l'Opéra de Paris, on n'est pas forcément plus cher que la Philharmonie de Paris non plus.
Vous coûtez combien, si je puis dire?
L'Opéra scénique est à 140 euros, quand l'Opéra de Paris va de 180 à 252 euros, je crois, si ma mémoire est bonne, pour la saison prochaine. Et les concerts vont de 45 à 95, sauf quelques exceptions, quelques chanteurs très, très, très renommés qui peuvent être vendus un petit peu plus cher. Le public y va de 5 à 90 ans. Et je dis volontairement 5, puisque nous avons, et c'est une volonté toute particulière de Pierre-René Lemal, actuel directeur général de la Caisse des dépôts. Nous avons des programmes éducatifs qui se développent, des spectacles que nous faisons en temps scolaire pour des enfants, la plupart du temps des enfants du primaire. Je pense que c'est notre mission de faire en sorte que le spectacle vivant reste vivant très très longtemps. Et on sait que les jeunes générations sont sont plus enclins à regarder de la musique ou des images sur leur écran d'ordinateur que dans une salle de cinéma ou une salle de spectacle. Et je pense qu'une des bonnes méthodes pour y arriver, c'est de faire venir les enfants très tôt dans une salle de spectacle. Donc on a des programmes éducatifs à leur intention. Et puis pour les collégiens, on essaye de les impliquer sur des répétitions, soit de concert, soit plus généralement d'opéra. Donc sur des pré-générales d'opéra, on a entre 150 et 250 collégiens qui sont là, qui ont été préparés à l'œuvre. On vient de présenter Mithridate de Racine. Évidemment, Racine est au programme des collégiens, donc on a fait des passerelles avec un certain nombre d'enseignants, et les enfants sont arrivés préparés, et on leur donne la possibilité de rencontrer les artistes, éventuellement d'aller sur le plateau. C'est une bonne façon aussi de les initier au spectacle vivant.
Alors, c'est très bien que ça coûte beaucoup d'argent de monter des opéras, en particulier puisque vous montez des versions, je crois, oratorio et des versions en
absolument,
costume.
Soit des versions scéniques, soit des versions en concert.
Donc les versions scéniques sont très coûteuses. Comment est-ce que vous équilibrez votre budget? Parce que je présume, est-ce que vous avez des subventions de l'État? Est-ce que vous avez des subventions du conseil régional? Comment est-ce que vous faites?
Alors, nous avons une large subvention de la Caisse des dépôts, qui est donc notre propriétaire et mécène, si je puis dire, même si ce n'est pas vraiment du mécénat, c'est une subvention. Et puis nous avons un cercle de mécènes privés, soit des personnes privées, soit des entreprises. Et ces subventions nous servent effectivement, si j'ose dire, à payer bien sûr les frais de fonctionnement du théâtre, mais aussi à faire une programmation qui n'est pas toujours bénéficiaire. On peut gagner de l'argent sur un récital de piano, on ne peut pas en gagner sur un opéra, c'est pas possible.
Vous êtes une société juridiquement différente ou vous êtes comment ça se passe juridiquement?
Alors juridiquement, nous sommes une société de droit privé. Nous sommes une société anonyme et donc je me dois à la fin de la saison d'avoir des comptes équilibrés.
Alors pour en revenir à la musique et à la création, Michel Franck, je voudrais que vous me disiez si votre théâtre musicalement a eu un genre, on dirait que d'après tout ce qu'on a dit dans la première partie, il y avait quand même un certain genre de musique qui semblait se dégager de la programmation, même s'il y a eu des aléas, des vicissitudes, des changements de direction ou de propriétaire. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a encore un genre maintenant? Est-ce que vous voudriez imprimer un genre ou vous voulez être absolument éclectique et pédagogique et divers?
Alors je vais vous répondre un petit peu des deux. La particularité du Théâtre des Champs-Élysées, et je pense que c'est vraiment un lieu unique au monde en la matière, c'est d'être pluridisciplinaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on fait de l'opéra scénique, on fait de l'opéra en concert, on fait des concerts symphoniques, on fait des récitals de piano, on fait des récitals de chant, on fait de la musique de chambre, on fait du ballet, tout ça dans le même lieu, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc cette pluridisciplinarité, voulue par Gabriel Astruc, elle existe depuis 1913, et je pense qu'elle continuera d'exister longtemps. Après, dans les genres musicaux, oui, et la façon de les traiter, oui, on peut espérer laisser une marque et avoir des lignes directrices. Mon prédécesseur, Dominique Meyer, qui a fait un travail pendant 11 saisons absolument formidable, a énormément développé le baroque, que ce soit en scénique ou en concert au sein du théâtre. J'ai maintenu le baroque dans une proportion inférieure à ce qu'il faisait.
Pourquoi? Parce que vous aimez moins ça?
Non, j'adore le baroque, mais j'aime aussi beaucoup le bel canto. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de bel canto léger sur Paris. Je l'ai rouvert aussi à la création contemporaine, puisqu'on a fait deux opérettes du Sapin. On avait passé une commande l'année dernière, un projet autour de Solaris, basé sur le livre de Stanislas Lem. Donc j'ai trouvé que c'était important de rouvrir le Théâtre des Champs-Élysées à la création contemporaine, ce qui n'était plus le cas. Avec l'Orchestre National de France, qui était en résidence chez nous, on a développé avec Daniel Legati des projets différents comme Tristan et Isolde, qu'on va présenter au mois de mai. Donc j'ai essayé d'ouvrir le répertoire, j'ai essayé d'ouvrir aussi à des metteurs en scène qui correspondent à ce que j'aime et à une forme d'esthétique, c'est-à-dire que j'aime le théâtre et donc j'ai beaucoup fait appel à des metteurs en scène de théâtre.
Et quelle est cette esthétique? Puisque vous dites que vous aimez une certaine forme, une certaine esthétique.
Une esthétique de spectacle, c'est-à-dire je fais très attention à la direction d'acteur, et pas simplement des gens qui sont placés dans un bel espace avec de belles lumières, mais j'ai envie que la mise en scène et la dramaturgie racontent quelque chose et un parti pris assez engagé en tout cas. Donc quand on travaille avec Denis Podalydès, avec Éric Lacascade ou Stéphane Braunschweig, on n'a pas tout à fait le même type de spectacle que quand on travaille avec des metteurs en scène qui sont plus habitués uniquement à l'opéra. Ça donne un genre de travail différent où on travaille beaucoup plus sur la direction d'acteurs. J'aime bien mélanger les artistes et donner leur chance à de jeunes artistes. Quand dans une autre vie, j'allais presque dire, dans un autre métier, j'étais producteur indépendant au sein de Jeannine Rose Productions. J'ai fait débuter Hélène Grémaud, elle avait 15 ans. Philippe Jaroussky a fait ses premiers concerts avec moi, il était totalement inconnu. Alors maintenant, évidemment, c'est une star, Philippe Jaroussky, mais il y a 15 ans, personne ne le connaissait. J'aime bien découvrir des artistes, et puis je crois aussi beaucoup en la fidélité, c'est-à-dire que j'aime pas vraiment les one-shots. Donc quand je crois en un artiste, j'essaye de l'imposer au public et quand je me trompe pas, ça marche.
Juste avant de finir, Michel Franck, je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas que, d'une certaine façon, et vous d'ailleurs, et beaucoup de théâtres musicaux dans Paris sont devenus, même si vous l'avez dit, vous avez fait quelques créations, sont devenus plus de la conservation et de la perpétuation de patrimoine que de la création, comme c'était si frappant avant la guerre. Et c'est peut-être un trait général de toute la ville de Paris et peut-être de la musique contemporaine dans le monde, c'est qu'on a l'impression que tout ça, c'est plutôt de la perpétuation de choses anciennes qu'on rejoue beaucoup avec beaucoup moins de création.
Vous avez raison et je le déplore, mais c'est là où il y a un énorme travail à faire auprès du public, puisque on est dans une ère où économiquement les choses ne sont pas forcément faciles et que évidemment on a beaucoup plus de public quand on joue du Mozart ou du Verdi que quand on joue un compositeur contemporain, et que quand on a un certain nombre d'objectifs économiques et financiers à remplir, on fait attention à l'équilibre de la programmation, mais là nous avons tous une mission de formation du public pour qu'il y ait autant de monde pour un compositeur contemporain, un Thierry Escaige par exemple, que pour du Mozart ou du Verdi.
Est-ce que ça coûterait tellement cher? Parce que quand en 1923 on a fait la création du monde chez vous avec Sandra, Darius Milhaud et Fernand Léger, c'était pas des artistes qui étaient à l'état de gloire où nous les connaissons maintenant, donc ça devait pas coûter si cher. Est-ce que ça coûterait si cher de nos jours de demander à des artistes, des écrivains qui sont pas encore à l'état de gloire de Victor Hugo de composer, de travailler pour vous?
Non, pas du tout. Mais ce qui coûte cher dans un opéra, c'est ensuite toute l'élaboration même du projet scénique, c'est-à-dire la construction des décors, la fabrication des costumes, le temps des répétitions, l'orchestre, c'est tout ce qui va autour.
Michel Franck, ma dernière question sera pour essayer de résumer le secret professionnel de votre théâtre. Est-ce que ça serait, et je n'y verrai aucun mal, je vais employer un mot qui est devenu un gros mot maintenant, est-ce que votre secret, ce n'est pas la conservation et la perpétuation d'un élitisme?
Ah non.
Et pourquoi non? La musique, c'est pas nécessairement pour tout le monde.
La musique c'est pour tout le monde. Je pense que notre devoir c'est de faire en sorte que la musique classique, qui est souvent considérée comme élitiste en France, alors on sait qu'historiquement la musique classique c'était la musique de la cour, c'était Louis XIV, c'était Lully, c'était Rameau, mais je ne crois pas que ça soit de l'élitisme.
C'est pas un gros mot, c'est pas si mal. D'ailleurs, même si vous me dites que le public a rajeuni, moi je viens de temps en temps chez vous, on voit pas beaucoup de rappeurs et de types avec une casquette à l'envers, ce qui est pas mal non plus. Je veux dire, il y a des choses qui sont faites pour certaines personnes.
Mais je crois pas que ce soit élitiste. Je pense que c'est aussi vraiment éducatif. Et si je vous cite, j'aime peu citer, je suis plutôt discret, secret, puisque c'est le titre de votre émission, sur ma vie privée, j'ai une fille qui a 11 ans, qui évidemment a été habituée à écouter de la musique classique. Elle a de la musique classique sur son iPod, et de temps en temps, quand je rentre dans sa chambre et que je la vois avec son casque sur les oreilles, je lui dis « qu'est-ce que t'écoutes ?» Elle me dit « de la musique ». Que ça soit la 6e symphonie de Tchaïkovski, que ça soit Rihanna, que ça soit Beyoncé, ou que ça soit Don Giovanni de Mozart qu'elle adore, elle me répond « de la musique ». Elle ne fait pas de différence. Et je pense que là, c'est notre rôle éducatif qui est en jeu.
C'était Secret Professionnel, le 207e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Cédric Châtelus. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.